Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Un mot, une expression expliquée, décryptée par le philosophe Olivier Bobineau. Olivier, bonjour.
Bonjour, Laurent.
Le mot d'aujourd'hui fait débat, il s'agit de séparatisme. Sans faire de polémique, Olivier, vous allez nous donner les tenants et les aboutissants de ce terme d'actualité.
Tout d'abord, une première réflexion. Le séparatisme est une doctrine. En effet, tous les mots en français qui se terminent par « isme », I-S-M-E, comme capitalisme, communisme, pour ne pas faire de jaloux fascisme, pour ne pas faire de jaloux libéralisme ou encore personnalisme, tous ces mots qualifient une doctrine, une idéologie, un ensemble d'idées et de pratiques. Elle a une racine latine, l'expression et le terme séparatisme a une racine latine, separare, qui signifie simplement mettre à part.
Donc le séparatisme, une doctrine, mais que dit-elle ?
Deuxième réflexion, cette doctrine n'est pas récente, elle ne date pas de l'année 2020. Cette doctrine a une histoire. Son premier usage se fait en Angleterre. En quelle année ? En 1650, pour être précis. Et son usage sert à qualifier les groupes religieux qui se séparent de l'Église anglicane, dont le chef, faut-il le rappeler, est le roi ou la reine d'Angleterre, et c'est valable encore aujourd'hui. Et ces groupes séparatistes veulent se séparer pour mener leur chemin en dehors de l'institution religieuse centralisée à Londres.
Alors ce n'est donc pas en France que le mot est employé pour la première fois, si j'ai bien compris, il a une connotation religieuse à l'origine aussi.
Et oui, c'est une connotation religieuse, mais c'est la troisième réflexion que je vous propose ce jour dans notre chronique. Le mot va même voyager. Il émigre chez nos voisins allemands en 1796 pour qualifier les provinces et principautés allemandes sur le plan politique. Il était religieux en Angleterre, il est politique, le séparatisme, en Allemagne. En effet, sur le plan géopolitique, au XVIIIe siècle, faut-il le rappeler, l'Allemagne n'est pas un État unifié. Loin de là, ce sont près de 350, j'ai bien dit, 350 entités géographiques qui composent l'Allemagne. Ce n'est pas du tout comme en France, où l'État est centralisé du fait d'une administration qui cherche à unifier le territoire national, notamment depuis le roi de fer, ou Philippe le Bel, qui gouverne de 1285 à 1314. Et côté allemand, en revanche, il existe beaucoup, beaucoup d'entités séparées les unes des autres au sein du Saint-Empire germanique. D'une certaine façon, on peut dire que la première réunification de l'Allemagne a lieu quand les armées prussiennes vont battre les armées françaises en janvier 1871, ce qui donne naissance, ce qui débouche sur la proclamation de l'Empire allemand, le 18 janvier 1871, dans la galerie des glaces du château de Versailles, s'il vous plaît.
Une des rares disciplines où j'étais fort à l'école, c'est l'histoire, j'ai bien suivi. Donc la seconde réunification a eu lieu en 1990 entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest.
Exactement. Et ce qui est intéressant à relever, c'est le fait que nos voisins anglais et allemands connaissent, du fait de leur histoire, dans leur histoire, le séparatisme. Les uns se séparent sur le plan religieux, les autres se séparent sur le plan géopolitique. En France, le séparatisme ne peut qu'étonner, pour ne pas dire détonner.
Parce que Olivier Bobineau, nous avons un État centralisé.
En effet, et c'est notre quatrième réflexion de ce jour. Notre histoire est celle d'une centralisation depuis bien longtemps, depuis le baptême de Clovis. Baptisé autour de l'an 500, en 498-18, ou en 502 selon les historiens, Clovis fait alliance avec l'Église catholique romaine et devient avec ce baptême le premier État catholique de l'histoire. C'est la France qui devient le premier État catholique et lui est le roi, le premier roi de France catholique. Dès lors, l'Église catholique va jouer un premier rôle dans le royaume de France. Il y a en quelque sorte un mariage entre le religieux et le politique, entre le pape et le roi de France, entre notre Sainte Mère, l'Église, telle qu'on l'appelait autrefois, et l'État royal. Dans cette relation de couple, dans cette relation conjugale, l'État français va se construire en quelque sorte en miroir de l'Église catholique. En ce sens, la France va s'inspirer, va trouver une inspiration dans l'administration catholique romaine, elle-même prenant son inspiration dans le droit issu de l'Empire romain, qui n'existe plus depuis 476, date, je vous le rappelle, de la chute de l'Empire romain d'Occident.
Autrement dit, si on suit votre réflexion, l'État français est une copie juridique et administrative de l'Église catholique.
Absolument. Or, que fait-elle cette Église catholique ? Les papes, depuis la chute de l'Empire romain, élaborent une doctrine et une théologie, une conception de Dieu, qui ne peut être respectée qu'à une seule condition. Quelle est cette condition ? Que la théologie, que la doctrine soit diffusée et transmise correctement aux fidèles. C'est pourquoi elle établit des diocèses et des paroisses, des territoires qui lui appartiennent pour rayonner et contrôler ses fidèles, notamment avec ses troupes, ses soldats, que sont les prêtres. L'État français voit cette efficacité, voit la stratégie catholique se déployer sur son territoire, et donc l'État français va s'en inspirer en créant des ministères, comme l'Église catholique, des titres comme l'Église catholique, des réglementations en propre comme l'Église catholique, mais aussi l'État français va inventer des représentants dans tous les territoires en n'oubliant pas de produire une doctrine.
Cela donne naissance à quoi alors, Olivier Bobineau ?
Et c'est notre cinquième réflexion, Laurent. Par la suite, cela donne naissance au jacobinisme, c'est-à-dire la doctrine politique qui défend la souveraineté du peuple et l'indivisibilité de la République française. Autrement dit, elle ne peut connaître de division interne sur son territoire. Le jacobinisme tient son nom du club des Jacobins, où des membres révolutionnaires se sont établis, tels Mirabeau, Barnave, Lafayette et bien sûr Robespierre. Par conséquent, tout ce qui vient ou tout ce qui viendrait diviser l'unité de la République française est considéré comme un adversaire de la nation et de l'État. Dans une telle approche, dans la doctrine jacobiniste, tout ce qui se sépare, toute communauté qui se distingue de la République n'est pas tolérée par le pouvoir central, le pouvoir jacobin. Autrement dit, la République condamne tout séparatisme. Voilà pourquoi le pouvoir central qualifie de séparatisme tout groupe social, religieux, politique ou culturel qui se sépare de la République. La res publica, la chose commune ou république, ne peut accepter des séparations en son cœur, dans son territoire, sur son territoire. Cela étant, Laurent, chères auditrices et chers auditeurs, une question se pose. La question est en effet de savoir... Alors de quoi est constituée cette chose commune, cette république ? Et si c'est la laïcité, comment définir la laïcité ?
Merci Olivier Bobineau pour ces réflexions historiques, étymologiques et politiques, très denses dans cette chronique qui nous fait bien entendu réfléchir. La prochaine chronique serait-elle donc sur la laïcité ?
Sans aucun doute, Laurent.
Eh bien, à bientôt. Merci Olivier.
Merci Laurent.